demandé de vous parler un petit peu. Il a remarqué que depuis environ un an, les dimanches soirs, les fois que j'ai donné des courts témoignages, c'était souvent, ça relatait ce qu'on étudiait, nous, le groupe d'hommes, ici, un mardi ou deux semaines, qu'on se rencontrait, un bon livre qui s'appelle « Révolution intérieure » de l'auteur qui est un homme de Dieu du Texas, Dwight Edwards. En fait, j'ai toujours eu... Au début de ma vie chrétienne, j'avais bien peur de poigner un livre puis de le lire. On peut l'enlever, hein, celui-là, oui. De parler d'un livre ou de lire un livre, j'avais comme l'impression que ça, c'était d'autres choses que la Bible. Mais en réalité, chaque dimanche matin, quand on s'en va à l'église, qu'on écoute un message de la parole de Dieu, c'est un pasteur qui nous prêche. C'est d'autres choses que la parole de Dieu. Mais c'est l'Évangile, c'est... Mais on doit justement l'écouter avec le même... oreille, le même œil critique, le cœur, avec une certaine écoute, oui, mais comme analyser tout ce qui est bon, analyser toute chose, puis retenir ce qui est bon. Hein? Donc, quand on lit un livre, il y a 16 chapitres dans ce livre-là, exemple, je ne me gêne pas de vous dire que ce que je vais vous dire, c'est pris là, parce que ce monsieur-là, Dwight Edwards, là, c'est un pasteur, c'est un conseiller chrétien, c'est ni plus ni moins qu'un pasteur. Là. Donc, c'est un homme de Dieu. Puis, j'ai lu son livre avec la même critique qu'à tous les dimanches matins quand je m'assois dans ce coin-ci puis j'écoute le message, que ce soit David ou René ou ce matin Dominique. Puis, j'espère que vous êtes comme ça aussi, que vous avez une écoute, que vous absorbez pas tout nécessairement automatique puis systématiquement, là, mais que vous avez une écoute puis une étude personnelle de la Bible de façon à savoir qu'est-ce qui est vrai pour discerner, justement. Puis qu'est-ce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, j'espère que vous avez aussi le courage puis l'honnêteté d'aller voir le pasteur puis dire, « Hey, moi, ce bout-là, là, que tu as dit tantôt, je vois pas ça comme ça. Comment tu peux expliquer ça comme ça? Comment tu en arrives à penser ça? Puisque c'est pas ce que moi j'ai vu jusqu'ici. » Puis là, tu confrontes. Puis c'est correct, ça. Là. Le pasteur va être content de vous répondre à votre point. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis c'est correct. J'ai jamais été mal reçu, d'ailleurs, d'aller voir un pasteur lui dire ça. Là. Soyez pas inquiet de ça non plus. Il me reste peu de temps. Il reste à peu près 15 minutes. Puis, ce que Dominique a dit ce matin, là, je n'en revenais pas. Je le sais, qu'est-ce qu'il a lu dans ses vacances. C'est pas compliqué, partout. C'est certain qu'il a lu ce livre-là. Tout ce qu'il a dit venait de... ça émanait, là, tiens, ça transpire de ce livre-là de M. Edwards, « Révolution intérieure ». M. Edwards vit au Texas. S'il venait au Québec, je suppose, puis qu'il avait l'occasion de nous faire une conférence de 16 messages, d'après moi, il nous prêcherait ces 16 chapitres-là. Là. C'est aussi simple que ça, puis c'est excellent. Maintenant, ce que ça parle, j'aimerais vous demander, on a combien ici qui sont prêts là, pour une vie plate? Qui que ça y est tente de vivre une vie plate? Là? Ça intéresse-tu quelqu'un, ça? C'est pas vraiment attirant, hein? Mais Cassandra nous a parlé de quelque chose, elle a dit « passionné ». Ce mot-là, là, moi, ça a résonné, puis c'est vrai. Hein? Et on est des êtres passionnés. Dieu a créé des humains, puis il nous a mis là, dans notre cœur des désirs de vivre intensément. Pas à une vie plate, là. Ça n'intéresse personne, ça. Le Seigneur, il nous a créé des êtres passionnés. Alors, si on ne réussit pas à trouver la manière de se passionner pour les bonnes choses, là, bien, devinez quoi? On va se trouver une passion. Ça va être ce qu'on appellerait une passion inférieure. On va être passionné pour le péché. On va être passionné pour nous-mêmes. On va être passionné pour ce qui nous satisfait notre chair. Mais on ne sera pas passionné pour Dieu. Alors, trouvons la manière, je vous suggère ça, d'être passionné pour Dieu. Elle a l'air de l'avoir trouvé. Puis c'est beau de voir ça aller. C'est le fun. Puis il y en a d'autres, je sais, là. Mais c'est beau d'entendre une jeune personne de son âge dire, « Hey, c'est ce qui me passionne, puis c'est là où que je peux mettre mes dons au service du Seigneur, puis je veux faire ça, puis merveilleux. » Alors, on a besoin, tous autant qu'on est, de trouver notre passion en Dieu. Puis le Seigneur, il fait un bout pour nous dans ça. Puis on va prier, là. Puis dans les quelques minutes qui vont suivre, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais vous en parler un peu, en tout cas un petit bout. Mais prions. Seigneur, tu nous vois et tu nous aimes. Tu as fait tellement pour nous, tu as tout fait pour nous, Seigneur. C'est par toi qu'on existe. C'est toi qui nous maintiens le souffle de vie. c'est par toi que toute chose subsiste. On est sur une planète qui flotte dans l'infini, puis c'est grâce à ta puissance, Seigneur, que on peut vivre sur cette planète en équilibre. Et dans nos cœurs, tu nous as créés, Seigneur, pour être passionnés de toi. Toi, tu es passionné de nous. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Ton amour n'a pas de limite. Ta grâce n'a pas de limite, Seigneur. Et tu l'as manifesté. Puis nous, on a tellement de difficultés à la voir, à le voir, à voir ces choses. Mais ouvre nos yeux, Seigneur, les yeux de notre cœur, pour qu'on les voie, cette abondance de grâce, cette abondance d'amour. Puis qu'on devienne à notre tour passionné pour toi, parce que on doit vivre pour toi avec passion, Seigneur. C'est ça la vie abondante que tu nous as promis, Seigneur Jésus. Et certainement, tu dis vrai. Parce que jamais tu as prononcé un mensonge, Seigneur. C'est en toi qu'est le repos. Et montre-le-nous, Seigneur, ce soir, dans les quelques minutes qui vont suivre. Je te prie de m'aider à dire les bons mots pour édifier mes frères et mes sœurs. Merci pour ces choses que tu, par lesquelles tu m'as touché, moi, Seigneur. Oui, dans la dernière année, puis mes frères aussi, puis je sais que d'autres personnes faisaient ces mêmes études, puis tu les as touchés aussi. Et c'est tellement édifiant, Seigneur, de te voir, de te toucher. Fais-le avec nous ce soir, on te prie. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Il y a quelques semaines, David Chouinard nous faisait un message avec une chaîne et un boulet, vous vous souvenez? Un gros boulet et une chaîne, des moyens gros de même, pour dire quelle est la différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, ou l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis, il montrait que, dans le Nouveau Testament, le Seigneur, il enlève le boulet. Puis là, on peut marcher librement. Et c'est vrai. Pour le non-croyant qui devient un croyant, ben il est libéré de ses péchés, puis là, il peut marcher en nouveauté de vie, en homme libre. Mais ça veut quoi? Il y a beaucoup de chrétiens aussi qui marchent avec un boulet. Parce que on n'a pas su trouver cette liberté-là dans le Seigneur. Pour toutes sortes de raisons, on n'a pas trouvé la liberté en Christ. On n'a pas cru à la liberté en Christ. Tantôt, tu as fait lever la main pour dire qui ceux qui avaient été sauvés en bas de 20, 21 ans, qui avaient accepté le Seigneur, mais il y en a qui ont été sauvés en haut de, mettons, 25 ans. En haut de 25 ans, qui a été sauvé à l'âge de 25 ans ou plus? OK, il y en a 5, 6. Puis, voyez-vous, tu as une habitude de vie qui est créée, là. Ça fait plus de 25 ans que tu es sur la planète Terre. Tu as appris à vivre, là. Tu fais plus que juste exister, là. Tu as mangé, tu as fait toutes les choses normales d'un être humain, puis tu as étudié, tu as appris un métier, tu es parti dans la vie, tu fais des choses. Tu as appris à vivre par tes propres moyens. Soudainement, tu es sauvé, tu te tournes vers le Seigneur. Tu as des habitudes de vie. Mais même les plus jeunes, moi, j'ai été sauvé à l'âge de 17 ans, puis déjà, j'avais des habitudes assez bien ancrées dans ma vie, de péché, des mauvaises habitudes, des habitudes de vie pour qui m'étaient bonnes, là, mais d'autres qui étaient moins bonnes. Puis on reste des fois avec ces mauvaises habitudes-là. Et vous pouvez bien imaginer, je parlais avec, vous vous souvenez, Daniel Thornton, avec Angie, qui était ici il y a quelque temps, une couple de missionnaires. Daniel me disait, on a parlé de ça un petit peu lui et moi, puis il m'a dit, aux États-Unis, lorsqu'il y a eu l'abolition de l'esclavage à un moment donné, il y avait des esclaves qui étaient assez avancés en âge. Puis là, bien qu'ils soient libres maintenant, parce qu'ils étaient déclarés libres, c'était compliqué pour eux autres là, de soudainement s'inventer une vie où ils ne savaient pas comment vivre en homme libre. Ils ne savaient pas comment composer avec ça, qu'est-ce qu'on fait quand on est libre. Ça fait 60 ans que tu vis esclave. C'est compliqué, là. C'est dur de vivre soudainement libre. Ben, vous pouvez bien imaginer qu'il y en a qui ont fini leur vie en tant qu'esclave. Parce qu'ils n'osaient pas prendre le risque, peut-être, de se présenter pour acheter une propriété. Peut-être de se présenter pour vivre en tant qu'homme libre. Aller au centre d'achat, faire son épicerie. Ils étaient habitués de faire acheter ça, que c'était d'autres qui fournissaient ça. Fait qu'ils ont continué certains auraient continué de vivre en esclave. Alors, on a besoin de trouver la liberté en Dieu, et cette liberté-là, elle existe. Une différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, quand on lit Exode chapitre 20, savez-vous le mot qui revient le plus souvent dans ces versets-là? Pardon? Tu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu. Il y en a, tous les chapitres est plein de tu. C'est des ordres, c'est des impératifs. C'est toi. C'est ça l'Ancienne Alliance. Je vous donne un exemple de différence énorme entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Alors, dans l'Ancienne Alliance, l'ordre est sur toi, sur moi. C'est tu ne feras pas ça, tu feras cela. Tu. Alors, on va aller dans le Nouveau Testament, on va lire. En passant, je voulais juste vous montrer, c'est ça ici, le livre Révolution intérieure, qui est excellent. Mais on va tourner dans Hébreux chapitre 8. Versets 8 à 10. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Alors Dieu dit, « Je vais faire une nouvelle alliance, parce que pas comme l'ancienne. » Puis, il faut qu'on lise un verset, là, une série de versets, c'est dans Ézéchiel 36. Ézéchiel chapitre 36. Parce que là, on voit vraiment, c'est frappant comment est-ce que dans la Nouvelle Alliance, c'est différent. Là. C'est pas tu, là, mais on va lire Ézéchiel chapitre 36, versets 19 à 27. Dieu dit, « Je les ai dispersés parmi les nations où ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon nom, mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël. Dieu s'adresse à Ézéchiel, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Remarquez-vous que c'est « je » pas mal, hein? Il n'y a pas de « tu » là-dedans. Là. Dieu, il dit, « Je vais faire quelque chose pour vous autres. Je vais le faire. » C'est ça qu'il dit, là. Avec autorité, Dieu, il parle. Il n'y a personne qui va aller contre ça, là. Quand même que quelqu'un voudrait se lever contre ça, oublie ça, il va se faire tasser, il ne sera plus là. C'est Dieu, il dit, « Je vais faire ça. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ça, là, c'est très, très différent de toutes les « tu » qu'on trouve dans Exode, chapitre 20, 21, 22, 23, 24, 25, tous les chapitres suivants. Puis jusque dans Lévitique 19, il dit, « Tu auras soin de reprendre ton frère, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui, mais tu auras soin de le reprendre. » Puis, tu sais, toutes les « tues » de l'Ancienne Alliance, il y en a des centaines de commandements là, dans l'Ancienne Alliance. Mais là, Dieu, c'est pas là qu'on est. Là. Dieu dit, quand on va être dans la Nouvelle Alliance, là, je ferai quelque chose pour vous autres. Je vais faire quelque chose avec vous autres. Je vais vous ôter votre cœur de pierre, qui n'est pas capable de réfléchir puis de comprendre comment Dieu veut que vous soyez. Puis je vais mettre en vous un cœur de chair, donc un cœur sensible, un cœur qui voit qu'est-ce que Dieu veut te montrer, un cœur qui comprend Dieu, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aspire à connaître Dieu. Puis avec ce nouveau cœur-là, là, c'est ça, quand Dieu nous donne un nouveau cœur, vous êtes d'accord avec moi? On est dans la Nouvelle Alliance. Je n'ai pas besoin de vous montrer des versets pour dire qu'on est dans la Nouvelle Alliance. Hein, c'est clair, on est là. On est là, là, où est-ce qu'on a eu un cœur nouveau. Les versets, je vais les citer rapidement. Là. Partout dans le Nouveau Testament, il y a de l'emphase qui est mise sur le fait que c'est Dieu qui accomplit son œuvre en nous. Philippiens 1:6. Quelqu'un peut me le dire? Celui qui a commencé en vous j'ai cette confiance dans le Seigneur que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous vous rappelez de ça? Philippiens 2:12-13, c'est lui, il dit, de même, travaillez à votre salut, travaillez à l'avancement dans votre salut, là, pas pour vous sauver, parce qu'on n'est pas capable de se sauver, mais travaillez à votre salut pour croître dans la fermeté, pour croître dans la connaissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Ça, là, c'est ça qu'il faut comprendre, là. Le nouveau cœur. Dieu il a placé en nous un désir pour vouloir faire sa volonté, pour vouloir le connaître, pour vouloir évangéliser, pour vouloir vivre pour lui, vouloir grandir dans sa connaissance. C'est pas nous qui nous sommes inventés ça, là, ce désir-là, là, comme chrétiens. Ça garderait bien notre orgueil intact, hein? On aimerait ça, là. Mais ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce désir-là. Là. C'est Dieu qui l'a placé dans notre cœur. Il produit le vouloir, puis il produit aussi le faire, la capacité. Imaginez que moi, je ne bats rien au basket. Je n'ai jamais joué de ma vie au basket. Je prends un cours personnalisé avec Michael Jordan. Ça, c'est le meilleur au monde, à peu près, là. C'est ça, hein? Je ne me trompe pas, là. C'en est un bon, en bébite. C'est tout un basketballeur, là. Là, lui, il me donne le meilleur cours, là, garde intensif. Je passe un mois avec, à temps plein, il me montre à jouer au basket. Là, je suis rendu bon en bébite. Mais je suis rien que Vital Nadeau qui joue au basket, là. Imaginez à cette heure que Michael Jordan, là, il peut être comme le Saint-Esprit, que lui, il rentre en moi, puis c'est lui qui joue à travers moi, là. Là, mon homme, le ballon, il rentre dans le panier, hein, toi? Là, le ballon, il va dans le panier, hein? C'est Michael Jordan. C'est pour ça que le Seigneur, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il lui avait donné un cours privé pendant 3 ans aux disciples. Mais il n'était pas de la même manière que le Saint-Esprit, en eux, travaillant en eux. Puis en nous, 2000 ans plus tard, travaillant, manifestant Dieu à travers nos vies. Comme seul Dieu peut le faire. Puis c'est pas par notre force, qu'est-ce que Dominique disait un matin, c'est pas par nous, par la chair, qu'on va manifester Dieu, là. Puis c'est pas avec notre désir qu'on va faire connaître Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Mais on a besoin de venir à Dieu, puis de connaître notre identité. Ça va être mon dernier point, il faut que je m'arrête là-dessus. En tout cas, il faut être en phase avec notre véritable raison d'être. Nous, on doit comprendre que notre véritable raison d'être, c'est pas pour vivre une vie confortable là, sur la terre en attendant d'arriver au ciel. Non, non. On est sur la terre pour glorifier Dieu. Puis la gloire de Dieu, c'est Dieu qui va la produire à travers nous, en autant que nous, on comprend qui nous sommes. C'est quoi notre véritable identité? Et c'est là qu'elle va venir la passion. C'est là qu'on va être passionné pour Dieu, lorsqu'on comprend qui on est. Ça fait que qui on est en Christ? Je vais vous lire un petit paragraphe de rien, là. Des fois, on est porté à s'étiqueter nous-mêmes, de fausses étiquettes en réalité. Il disait, l'auteur, à un moment donné, « Aucun chrétien né de nouveau devrait entrer dans une assemblée puis dire « Je suis un alcoolique ». Ou je suis un n'importe quoi de même. Là. Parce que ce n'est pas ça ma véritable identité. La véritable identité que Dieu me donne, là, je vais vous en donner quelques-uns. Nous sommes en Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1:30. Nous sommes une nouvelle création, 2 Corinthiens 5:17. Nous sommes participants de la nature divine, 2 Pierre 1:4. Nous sommes comblés en Christ, nous l'avons tout pleinement en Jésus-Christ, Colossiens 2:10. Nous sommes le parfum de Christ. Ça, c'est les étiquettes que la Bible nous colle. Pas un alcoolique, c'est pas un dépendant de narcotiques, c'est pas... Non, on est le parfum de Christ. 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes l'ouvrage de Christ, son œuvre, son œuvre d'art. Éphésiens 2,10. Nous sommes des enfants de Dieu. Romains 8,17. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Romains 8,17 encore. Nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8,37. Ça, c'est comment Dieu nous étiquette. Il nous qualifie de ça. Je suis sûr que ça nous est arrivé, à un moment ou à un autre de notre vie chrétienne, de s'étiqueter. Moi, ça m'est arrivé des fois de dire, « Ah, moi, je suis pogné avec ça. T'sais, moi, je suis un colérique. » Ben regarde, là, c'est pas vrai. C'est juste faux. Faut se détromper à un moment donné, là. C'est pas vrai. Oui, je suis porté à avoir la mèche courte. C'est dans mon tempérament de parler avec passion, avec une certaine vigueur. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas me contrôler, puis que je ne vais pas je vais m'emporter, que avec ma colère, je vais faire du mal. Puis c'est pas vrai, pantoute. Dieu n'a pas fait un colérique quand il m'a sauvé. Il a fait un homme libre. Dieu n'a pas fait un alcoolique quand il t'a sauvé. Il a fait un homme libre, une femme libre, un enfant de Dieu, là. Totalement libre. Libre du péché, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Puis devine si ça lui tente de pécher, lui. Pantoute. Fait que, quand ça me tente de pécher, là, c'est quoi l'affaire? C'est que j'accueille le vieux vital. Je l'accueille, puis j'ai dit, bienvenue dans ma maison, tu peux venir avec moi, tu peux marcher dans la vie avec moi. Mais quand j'accueille la nouvelle identité, la vraie identité qui est la mienne, là, celle que Dieu me dit qui je suis. Parce que, qui dit vrai, là? C'est-tu ça ici que je viens de lire, qui est mon identité? Ou si c'est les faussetés que moi je peux me faire croire? Ah, moi je suis un colérique, ah, moi je suis un menteur, moi je suis habitué de voler, moi je suis habitué de... Hein? C'est pas ça qui est mon identité, ça c'est le vieux vital, ça. C'est le vieil homme qui se corrompt. Mais le nouveau, là, qui a été créé selon Dieu, en Jésus-Christ, on lisait ce matin dans Éphésiens chapitre 4, là, qui est créé selon Dieu. Lui, là, il est libre. Lui, il aime à connaître Dieu. Lui, il aime les frères et les sœurs. Lui, il aime le Seigneur, puis il aime à croître dans la connaissance de Dieu. Lui, il est passionné pour Dieu. Lui, il a envie de faire connaître le Seigneur à toute la terre. Lui, il n'a même pas peur quand il évangélise. Le nouveau moi, là, il n'a pas peur quand il évangélise. Il aime ça. Il en veut. C'est vraiment quelque chose d'autre, là. Mais il faut l'accueillir, cette identité-là, qui est la vraie, la véritable identité. Pire que ça, c'est que quand on n'accueille pas la nouvelle identité que Dieu nous donne, d'enfant de Dieu, libre du péché, capable de marcher sur l'eau, là. Je vous dis pas là, de laisser faire, de vendre vos bateaux, puis de partir à la pêche nu-pied. C'est pas ça, là. Mais je veux dire, tu sais, c'est un exemple, marcher sur l'eau, on l'a dit, par-dessus le péché. Le Seigneur, avant ce qui me faisait tomber, je réalise quand je prends l'identité que Dieu m'a donnée véritablement, là, ben ça ne me fait plus tomber pantoute. Il n'a pas de difficulté. C'est pas vrai que je suis un colérique. Je suis un enfant de Dieu. C'est ça que je suis. Puis toi aussi, mon frère, ma soeur. Puis c'est hot, c'est merveilleux, c'est passionnant, c'est capoté. C'est vraiment l'identité que Dieu nous donne. Il faut l'accueillir, par exemple. C'est ça le problème. C'est que souvent, on ne l'accueille pas à 100%. On dit, ouais, je suis sauvé, puis je suis croyant, mais tu sais, on se rappelle du vieux moi, comment est-ce qu'on est, naturellement. Puis on aime faire plaisir à notre chair. Mais quand on est là, là, il faut se poser la question suivante. C'est pas juste qu'est-ce que je veux, mais plutôt qu'est-ce que je veux vraiment. C'est comme se poser la question une deuxième fois, bien réfléchir l'affaire. Qu'est-ce que je veux vraiment, là? Est-ce que je veux satisfaire le vieux moi ou ben non? Tu sais, je suis dans une situation de où est-ce que je suis tenté, là. Parce qu'il y en arrive des situations où je vais être tenté. Mais là, qu'est-ce que je fais, là? Ben là, c'est au lieu de me demander qu'est-ce qui me tente, je vais demander qu'est-ce que je veux vraiment. Puis quand j'y pense comme il faut, là, l'homme intérieur, il me parle. Puis ça, c'est celui qui est créé selon Dieu en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Puis lui, là, qu'est-ce que ça y tente vraiment, là? Devine quoi? C'est d'aimer Dieu. C'est d'être le mari que ma femme a besoin. Lui, là, ça y tente d'être le père que mes enfants ont besoin. Ça y tente d'être le chrétien que l'Église a besoin. Ça y tente d'être l'évangéliste que les perdus ont besoin. Lui, ça y tente. Il veut, lui, là, cet homme-là, là. Ça, c'est le vrai moi. Ça, c'est lui que je suis. Puis l'autre, c'est lui que je suis pas. Ça, c'est de la fausseté, ça, c'est du mensonge. Mais il faut arriver à saisir notre nouvelle identité. Je vais m'arrêter là, parce que je suis déjà dépassé de 8 minutes. Mais c'est ça le point que je voulais partager ce soir. Il faut arriver à saisir notre véritable identité. Puis c'est en Jésus-Christ qu'on est une nouvelle créature libre. Et puis, oui, ça comporte des risques. Oui, c'est bien plus compliqué vivre librement que de s'embarquer dans des enclos puis de se faire des règles. Puis tiens, je fais ça, puis je suis un bon chrétien. OK, c'est bon. Je sais c'est quoi maintenant, je suis correct. Mais le cœur est tout croche. Je l'ai vécu, ça, là. Pendant des années. Je sais quoi. Mais saisir la véritable identité, puis vivre cette identité-là, puis laisser le vieux moi de côté complètement. C'est ça que Dominique vous disait ce matin aussi. C'est ce que le Seigneur voulait vous dire aujourd'hui, certain, parce que, regarde, moi, j'entendais Dominique parler, j'ai dit, il dit tous les points que je voulais dire. Mais je me suis concentré sur un autre point, mais c'est correct, c'est merveilleux. C'est Dieu qui voulait nous parler, je pense, puis on a besoin de saisir cette nouvelle identité-là. Et puis, je vous le recommande, le livre, il ne vous fera pas de mal. C'est très bon, ce livre-là. Moi, j'ai aimé l'étudier. On l'a étudié en groupe d'hommes, on l'a discuté, on lisait un chapitre, on le discutait au 15 jours. Alors, on va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour l'identité que tu nous donnes. On est tes enfants. C'est toi qui déclares qu'on a tout pleinement en toi. Que tu nous as créés des êtres libres. Tu ne nous as pas laissés. Puis en plus, ton Saint-Esprit que tu as mis en nous, Seigneur, il ne peut pas diminuer. C'est immuable. Personne ne peut l'ôter de là. Personne ne peut diminuer la puissance, la quantité de ton amour, de ta grâce que tu as déversée en nous. C'est là pour toujours. On a simplement qu'à le réaliser et à saisir cette nouvelle identité pour la vivre. Puis là, on va trouver le repos pour nos âmes. Là, on va trouver que ton joug est doux, que ton fardeau est léger, Seigneur Jésus. Amen.